Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, ici Laetitia. La fin d'année arrive à grands pas et se pose la question des repas de fête. Pour celles et ceux qui souhaitent végétaliser leur alimentation, c'est souvent le casse-tête. Comment gérer les tensions que cela peut générer? Comment cuisiner pour faire plaisir à tout le monde? Comment profiter du repas en mangeant autre chose que le paquet de chips? Bref, pour aborder ce sujet, j'accueille Mélanie en Véganie, c'est son pseudo Instagram, qui est titulaire d'un diplôme universitaire alimentation végétarienne et qui dispense des idées de recettes et des conseils de nutrition sur son compte Instagram et via ses e-books en vente sur son site. Bonne écoute! Bonjour Mélanie!
Bonjour!
Alors pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie?
Tout à fait. Moi je m'appelle Mélanie. J'ai lancé une page Instagram il y a bientôt 3 ans pour parler de l'alimentation végétale. Initialement, moi, je viens d'école de commerce, donc c'était pas tout à fait le même secteur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet, un thème qui avait encore beaucoup de choses à développer et qui pouvait apporter beaucoup, que ce soit pour la cause animale, pour l'environnement, pour la santé. Et du coup, j'ai choisi de me réorienter et j'ai rejoint le premier diplôme universitaire français en alimentation végétarienne qui est dispensé par la Sorbonne. Aujourd'hui, je suis créatrice de contenu à temps plein, donc sur ma page Instagram qui s'appelle Mélanie en Véganie. J'ai passé mon diplôme que j'ai eu avec une note plutôt cool en plus. Et du coup, merci. Et du coup, maintenant, c'est mon travail à temps plein de proposer des ressources sur l'alimentation végétale pour essayer de repenser son alimentation de manière saine, durable, sans compromettre ni son plaisir ni sa santé. Et voilà, en gros. Ma petite mission, c'est ça.
Ok, super. Tu parlais de ton diplôme universitaire alimentation végétarienne qui était à l'époque le premier à exister sur ce sujet. Est-ce que tu sais, par curiosité, si aujourd'hui il y en a un petit peu plus en France, si ça a essaimé, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour suivre cette formation?
Alors, à ma connaissance, c'est toujours le seul sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il existe à l'international déjà des diplômes sur... le sujet, on pense notamment à Stanford, par exemple. En France, sur l'alimentation végétale, c'est le seul. Et c'est vrai que ça a un peu tardé à arriver, mais je pense qu'il y en a d'autres qui devraient se mettre en place petit à petit.
Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce type de formation? C'est sur combien de temps déjà?
Alors, c'est un diplôme qui dure de janvier jusqu'à l'été à peu près. Donc, c'est sur une demi-année. Ouais. Avec environ 6 heures de cours par semaine. Ce qu'on apprend, c'est on fait un peu le tour des études scientifiques à l'heure actuelle sur les données qu'on a sur l'alimentation végétale. Donc quand on dit alimentation végétarienne, ça s'entend au pluriel. Donc c'est à partir du moment où on va avoir une alimentation d'exclusion, c'est-à-dire qu'on va enlever par exemple la viande, on va enlever le poisson. Et puis petit à petit, donc que ce soit en étant pécétarien, végétarien, vegan, on voit un peu tous les impacts de ces alimentations sur la santé notamment. Et après, il y a aussi d'autres cours qui sont plus précis en allant chercher tel ou tel nutriment. Par exemple, on va faire un point sur le fer et en fonction des différentes populations, donc la population générale, les femmes, les enfants, les femmes enceintes, etc. Et on voit comment... gérer ce nutriment-là. Et puis après, on voit aussi des informations du type un peu plus social, qu'est-ce qui pousse les gens à adopter ce genre d'alimentation, comment est-ce que les médecins peuvent gérer des patients qui choisissent d'avoir des alimentations qui sont qui excluent des catégories alimentaires, quels sont même les impacts économiques sur la société française, quels sont les pourcentages de personnes qui choisissent de faire ces choix alimentaires et qu'est-ce qui en découle et pourquoi est-ce qu'ils font ces choix-là. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très complet en fait et j'ai vraiment adoré ces études.
Soit dit en passant, c'est un sujet, tout ce que tu viens de citer, un peu tous les aspects sur l'alimentation végétale, le côté sociologique, santé, puis après même vie pratique, qu'on aborde dans le numéro 12 du magazine. S'il y en a que ça intéresse, je vous renvoie à ce numéro. Mais aujourd'hui, avec toi, on va se focaliser un petit peu plus sur Noël, la période de l'année qui approche à grands pas, et sur ce qu'on peut faire pour passer un Noël un petit peu plus végétal ou totalement végétal au niveau des, notamment des repas de fête. Tu as, dans tout ce que tu proposes sur ton compte Instagram, il y a plusieurs e-books. Alors, il y en a sur différentes thématiques, notamment, je crois que le sport te tient pas mal à cœur. Tu pourras peut-être nous en dire un mot. Et puis, il y a un e-book là, que tu proposes en fin d'année qui est dédié justement à un repas de Noël végétal qui est fait en collaboration avec Juliette qui s'appelle The Vegan Colibri sur Instagram. Et que, je t'avoue, j'ai acheté à titre personnel de manière totalement décorrélée du magazine, parce que j'étais intéressée pour moi, et je l'ai trouvé super. C'est 7,90€ l'e-book, et on a un petit guide vraiment complet pour préparer un repas de Noël pour 8 personnes, avec environ 140€ de course. Et ce que j'ai trouvé super aussi, c'est que vous choisissez vraiment des ingrédients simples, hyper faciles à trouver, accessibles à la fois en termes de prix, à la fois en termes de goût, des choses qui peuvent plaire à tout le monde. Voilà, il y a cet axe très accessible. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais si tu veux, tu peux peut-être nous dire un mot sur ce que tu proposes en ligne sur ce sujet et puis sur les autres sujets au niveau de tes e-books.
Oui, tout à fait. Bah, alors, comme tu disais, j'ai différents contenus qui sont disponibles. Je me suis lancée sur une partie sur le sport parce que c'est vrai que souvent, dans les clichés, tu vois, on se dit que dans l'alimentation végétale, il n'y a pas de protéines, c'est compliqué d'avoir une pratique sportive intense, etc. Et donc, j'avais envie de pouvoir répondre à cette problématique. Et après, il y a d'autres problématiques que j'essaye d'aborder pour aider toutes les personnes qui souhaitent avoir une alimentation végétale, peu importe leur catégorie de population, entre guillemets. Et après, en ce qui concerne le e-book de Noël, pour ceux qui nous suivent depuis un moment avec Juliette, en fait, c'est le troisième Noël qu'on propose un e-book, mais les Noëls d'avant, c'est vrai qu'on était partis sur des menus type rôti de 7 ans, enfin, tu vois, des ingrédients qui vont pas parler à une majorité de personnes. Et on s'est dit cette année, pourquoi pas se mettre plus de critères, se mettre un plus gros challenge et faire un menu qui est à la fois 100% végétal, qui est de saison, qui utilise que des ingrédients qu'on trouve en grande surface, donc pas besoin d'aller galérer à chercher dans plusieurs magasins bio, etc., ou de commander en ligne. Tu peux aller à Carrefour, à Inter, à ce que tu veux. Normalement, tu trouves tous les ingrédients qu'il faut. Voilà, donc tout est fait de saison, maison, etc. Et c'était voilà un peu le challenge qu'on s'est donné. Et aussi la nouveauté par rapport au e-book d'avant, c'est qu'avant on cuisinait chacune de notre côté puisqu'on n'habite pas dans la même ville. Et là, on s'est rejoint à Lyon et pendant 48 heures, on était dans un appart à cuisiner non-stop pour tester, mettre en place nos recettes, faire un support vidéo avec on a mis un QR code sur chaque page du e-book pour pouvoir retrouver une vidéo, pour avoir un accompagnement un peu étape par étape pour refaire les recettes, etc. Enfin voilà, on a essayé vraiment d'élever le niveau pour que ce soit hyper accessible au niveau prix, que ce soit hyper abordable, accessible, qu'on trouve tous les ingrédients facilement, etc. Voilà, c'était vraiment ce qu'on avait à cœur de mettre en place et je crois que le challenge n'est pas trop mal réussi.
Franchement, il est vraiment super, bravo, puis j'imagine que c'est un gros boulot. On va revenir à Noël, mais avant ça, j'ai quand même oublié de te demander, toi, quel était ton parcours avec l'alimentation végétale, quelles sont les étapes que tu as suivies éventuellement à titre personnel, et puis quelles étaient tes motivations ?
Alors moi, mon parcours, il commence en 2017, je pars à Cardiff pour mes études, donc je me retrouve étudiante à faire mes courses seule pour quasiment la première fois. Et en fait, en parallèle, je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'avant et je découvre notamment L214. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos d'abattoirs qui m'ont profondément marquée. J'ai trouvé que c'était d'une violence inouïe et ça m'a stoppée quasi net dans ma consommation de viande. En fait, en parallèle, j'avais fait des courses où j'avais acheté du blanc de poulet, et en croquant dedans, vraiment, j'ai eu un dégoût, en me disant c'est plus possible, ça peut, je veux plus participer à ça.
L214, juste pour en dire un mot, c'est une association qui dénonce les abus et les dérives qui existent, notamment dans les abattoirs, avec souvent via souvent des vidéos chocs, mais
avec,
pas que.
Voilà, des caméras cachées, des enquêtes, etc. Voilà. Et du coup, moi, je suis tombée sur des vidéos d'abattoirs que, en fait, je n'avais jamais vues, et ça m'a bouleversée. Et du coup, voilà, j'ai commencé à changer mon alimentation en 2017. Et après, en fait, ça m'a mis plus de temps. Par exemple, à arrêter le poisson, j'ai mis quasiment un an et demi de plus parce que j'avais pas du tout la même relation empathique avec les animaux marins. Et en fait, dans un souci de cohérence, j'ai fini aussi par arrêter. Et puis, jusqu'à réduire au maximum tous les autres produits animaux petit à petit. Alors aujourd'hui, je peux pas cocher 100% la case vegan parce que je fais des exceptions du type en repas de famille, ça m'arrive de manger des produits laitiers ou des œufs, mais après chez moi, mon alimentation est 100% végétale et c'est ce que j'essaye de promouvoir le plus possible, tout en ayant bien évidemment cette flexibilité, cette compréhension et cette tolérance envers les gens qui essayent du mieux qu'ils peuvent, mais qui ont aussi des freins, que ce soit au niveau familial, un peu pression sociale, etc., des freins de santé, des freins d'organisation parce que grosse famille, nombreuse à nourrir et c'est compliqué. Enfin voilà, je sais que l'alimentation, c'est tout un thème hyper vaste et complexe qui touche à beaucoup de sphères de la vie privée et publique, et que du coup l'idée, c'est voilà, pour moi, c'est de tendre le plus possible vers une alimentation végane pour effectivement limiter la pression sur l'environnement, sur les animaux. Mais j'aime bien l'expression qui dit qu'il vaut mieux des millions de personnes qui essayent d'être vegan de manière imparfaite que quelques parfaits vegan. C'est un peu ça que j'essaye de promouvoir, quoi.
Tout à fait. Alors, tu viens de parler là d'impact environnemental. Toi, ta première motivation, ça a été l'éthique vis-à-vis des animaux, mais il y a aussi évidemment le sujet environnemental dans la balance. Est-ce que tu sais, dans les aliments qu'on consomme habituellement à Noël, il y a quelques aliments un peu qui reviennent dans nos traditions culinaires, ceux qui ont le plus d'impact environnemental, je pense par exemple que ce soit des aliments exotiques, au foie gras évidemment, tradition française, aux grosses pièces de viande, voilà, qu'est-ce qui pose éventuellement problème, en tout cas, qui pose question?
En réalité, dès qu'on part sur une alimentation qui est carnée, et dans carnée j'entends également le poisson, on a un impact écologique qui est plus fort que n'importe quelle alimentation végétale, et on a des études qui sont sorties qui montrent que en fait, l'impact du transport dans le processus de fabrication de l'aliment est finalement vraiment minime, et que tout ce qui va compter, ça va plus être tout l'aspect de production avant tout ce qui arrive au moment du transport.
C'est-à-dire que souvent, c'est vrai qu'on se dit que si on mange local et qu'on sait de la viande locale, etc., on se dit que finalement, ça va. Et en fait, c'est assez minime, effectivement. Je vois les études dont tu as parlé. Mais le côté production avec l'alimentation des animaux est en fait une grosse source, notamment de gaz à effet de serre.
Exactement, et ça s'explique aussi en partie parce que il y a tout un moment de la production où on doit nourrir, loger entre guillemets les animaux, et donc ça demande beaucoup d'espace. En fait, sur Terre, sur l'ensemble des terres agricoles qui existent, il y en a 77%, donc quand même une immense majorité, qui sont dédiées à la nourriture. Qui part pour le bétail. Donc que ce soit les pâturages ou les champs dans lesquels on fait pousser du maïs ou du soja à destination du bétail, en fait, ça représente 77% de toutes nos terres agricoles. Alors que quand on choisit d'avoir une alimentation qui est végétale, c'est sans intermédiaire, et donc on optimise beaucoup plus les ressources que quand on passe par l'intermédiaire d'un animal qui va consommer beaucoup de ressources pour après en refournir, mais en moindre quantité. Enfin, on va donner plus de protéines végétales à un animal qui va pouvoir fournir de protéines carnées ensuite à la fin.
Mmh. Avant de rentrer dans les détails d'idées de recettes, justement, un gros sujet autour du repas de Noël, c'est les tensions, frustrations que peut générer le repas de Noël lorsqu'on a des régimes alimentaires différents. Généralement, c'est le cas quand on fait des repas de famille. Est-ce que tu as quelques astuces pour gérer ça ?
Alors, moi, j'essaye de pas en parler déjà, en réalité, mais ça, c'est ma vision. On n'est pas obligé d'adopter cette vision-là. Mais je ne vais pas aller créer du débat le soir de Noël. L'idée, c'est de passer un bon moment familial, même si on a des divergences dans nos valeurs. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement de proposer son aide, de proposer d'apporter l'apéro, de proposer d'apporter un gâteau ou une entrée. Et comme ça, ça joue un peu un rôle de cheval de Troie, si je peux dire, où on vient intégrer un petit bout d'alimentation végétarienne ou végane dans un repas qui est quand même principalement carné à la base. Et tout en participant, tout en proposant quelque chose de nouveau, ça permet de faire goûter, ça permet d'attiser un peu les curiosités, etc. Je trouve que c'est une bonne solution. Moi, c'est ce que j'essaye de mettre en place chaque année. Et là, par exemple, j'ai plusieurs repas en fonction des côtés de la famille qui se prévoient. Il y a un des repas qui va être très traditionnel avec une dinde farcie. Et après, ensuite, il y a plein d'accompagnements du type haricots verts, marrons, pommes dauphines, etc. Donc, en gros, moi, j'ai juste à faire en sorte d'avoir un plat principal pour remplacer la dinde. Mais après, tous les autres accompagnements, ils sont vegan friendly. Et du coup, ça peut être intéressant si vous faites partie d'une famille dans laquelle il y a quelqu'un qui a une alimentation végétale. Si vous voulez l'intégrer, de penser à tous les accompagnements pour qu'ils soient au moins végétariens, voire vegan si possible. Et c'est super et c'est assez facile et ça convient à tout le monde.
J'aime beaucoup l'idée aussi, effectivement, de proposer, en fait, d'être proactif et de dire « Ah bah attends, moi j'amène l'entrée, le dessert, l'apéro, voilà. » Et si vraiment il n'y a rien qu'on peut manger sur le reste du repas, au moins on peut manger ses plats. Et comme tu dis, ça peut montrer aussi au reste de la famille que c'est sympa et qu'on peut se régaler aussi. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner quelques idées de recettes? Alors, sans détailler toute la recette, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais quelques idées qu'on peut faire pour un repas de Noël sur un peu toutes les étapes avec la partie apéritif, amuse-bouche et puis jusqu'au dessert. Donc, on va commencer par le début, les petits amuse-bouches pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner en version végétale?
Alors, qu'est-ce qu'on peut cuisiner en version végétale? Pour l'apéro, il y a plein de choses apéro basico-basiques qu'on peut retranscrire du type les chips et compagnie. Mais si on veut quelque chose de plus festif, je pense que ce qui est cool, c'est un peu toutes les pâtes feuilletées en forme de sapin, de soleil, etc. avec des pestos ou des sauces tomates ou des choses comme ça. Ça, c'est assez facile. C'est un peu design, c'est un peu sympa, ça se partage et tout. Je trouve que c'est des plats qui sont intéressants.
En fait, on le sait pas forcément, mais les pâtes feuilletées du commerce sont véganes.
On peut vérifier, mais elles sont souvent faites avec de l'huile parce que je pense que c'est moins cher que le beurre. Donc voilà, après avec les feuilletés, vraiment, vous pouvez laisser libre cours à l'imagination et mettre plein de choses dedans. La dernière fois, j'ai tenté il y a plein de simili saucisses maintenant qui existent, de faire des feuilletés à la saucisse vegan, c'était super bon. Là par exemple dans le e-book, on a sorti une pièce que je trouve hyper originale, très belle et très facile à faire. C'est-à-dire qu'on a fait des petits macarons de champignons de Paris. Donc on a acheté les plus petits champignons de Paris qu'on trouvait et en fait on a enlevé les pieds des champignons, on les a fait cuire et après on a mis un chapeau sur l'autre avec une ganache de patates douces au milieu. Et on a fermé ça avec un petit brin de ciboulette. Et en fait, on se retrouve avec des petits macarons marrons et oranges avec un brin vert pour la déco. Et c'était super, super bon, très facile à faire. C'est que des ingrédients simples, donc il n'y a pas de risque que ça ne plaise pas normalement. Après, je trouve que c'est hyper cool aussi d'aller tester et d'aller explorer tout ce qui va être les faux gras. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais il y en a de plus en plus. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des alternatives qui sont super cool. Moi, j'ai testé celui de Gaïa et j'ai testé le veg gras à la truffe. Et les deux sont vraiment délicieux et je recommande. Ça permet en plus de manger comme tout le monde, entre guillemets, et d'avoir cette sensation d'être inclus dans le repas. Je trouve que c'est assez agréable d'avoir ces alternatives qui existent.
Le seul petit bémol que je ferais, c'est que parfois les personnes qui sont un peu réfractaires à l'alimentation végétale n'aiment pas trop quand on leur propose quelque chose qui est censé être du foie gras mais qui n'en est pas, parce qu'évidemment, même si ça peut se rapprocher, c'est pas le même goût, la même texture exactement. Donc voilà, faut peut-être en fonction des gens à qui on s'adresse préciser que c'est un peu différent.
Tout à fait. Mais alors, tu sais, moi, je le partage même pas, mon foie gras, parce qu'en général, ma famille achète tout le temps du foie gras classique. Et du coup, moi, j'ai le mien et je suis super contente de manger le mien et je montre qu'on peut faire autrement. Et c'est juste être un exemple aussi, ça peut être cool. Après, bien sûr, si on me demande, je fais goûter, mais en général, je le prends pour moi.
Ah oui, d'accord, ça c'est une autre astuce, c'est amener son petit baluchon de truc pour soi. Ouais, très bien. Ouais.
J'ai une cousine aussi qui est végétarienne et du coup on est toutes les deux à manger ça, et on se régale et on fait la contre-soirée végétale juste à côté, quoi. C'est
okay. Ok, super. Donc maintenant on poursuit. Qu'est-ce que tu nous proposes pour l'entrée?
Alors pour les entrées, à nouveau il y a pas mal de solutions possibles. Nous, dans le e-book avec Juliette, on a testé plusieurs mises en bouche. L'une d'entre elles, c'est des petites tatins d'endives qu'on va venir braiser puis déglacer au vin blanc. On met ça à nouveau sur une petite pâte feuilletée. On aime bien les pâtes feuilletées à Noël, avec un peu d'échalotes, etc. Et franchement, c'était super bon. On a quelqu'un qui était venu à notre repas de fête où on faisait goûter, qui de base n'aimait pas les endives et qui s'est régalé. Sinon, on peut vraiment rester dans des idées simples, du type des petites verrines avec des veloutés, type carottes, coco, gingembre ou ce genre de choses, un peu avec des épices qui font un peu festif, je trouve.
Les veloutés, moi, pour l'avoir testé aussi une année sur un repas de Noël végétarien, c'est pas mal parce que, en fait, les gens ont souvent l'habitude d'avoir des petits veloutés en entrée, ça choque personne. C'est facile à faire avec des légumes de saison en plus.
Ça se décline en plus vraiment à l'infini avec les légumes qu'on a sous la main. On peut venir faire toaster des petites graines de sésame à mettre dessus pour faire joli. Enfin, ça peut être
ouais, faire un petit topping un peu sympa.
Ouais.
Bon, maintenant, ça se corse un petit peu. Qu'est-ce que tu nous proposes en plat?
Alors, en plat, ça dépend vraiment de la motivation que vous avez et aussi du public auquel ça s'adresse. Pour des gens déjà initiés à l'alimentation végétale, tout ce qui va être les rôtis véganes à base de seitan, etc., c'est vraiment très cool. Mais alors, ça demande un peu de préparation, un peu de technique culinaire. Mais voilà, ça faisait partie des premiers e-books qu'on avait proposés avec Juliette. Et c'est vrai que c'est canon, c'est hyper bluffant. Visuellement, ça donne quelque chose de super intéressant. On peut même le farcir avec des marrons, des champignons, des trucs comme ça. Et ça peut être très cool avec une petite sauce champignon, quelque chose comme ça. Vraiment sympa. Dans quelque chose de plus abordable, un peu plus simple à réaliser, je pense, je vais chercher plutôt du côté un peu anglais avec ce qu'ils appellent les Wellington. Donc ça va être des espèces de paille fourrée avec... traditionnellement, ça se fait avec du bœuf. Donc c'est un espèce de bœuf en croûte. Et en fait, on peut faire ça et à la place du bœuf, remplacer avec, par exemple, un mélange de lentilles, carottes, champignons, noix concassées, avec une espèce de sauce au vin rouge, par exemple, ou un truc comme ça. Et ça peut être aussi super festif et intéressant à mettre en place. Et puis, j'espère que vous m'en voulez pas, mais j'ai pas envie de dévoiler le plat principal du
non,
parce que je trouve qu'il est super original et que j'ai envie de laisser un peu de mystère et de surprise sur ce plat-là.
Ouais, je confirme. Non, mais écoute, comme ça, les gens seront tentés par ton e-book et vraiment, je trouve qu'il vaut le coup. Donc, puis c'est du boulot, donc je comprends que tu dévoiles partout. Et juste deux choses, tu parlais des e-books précédents avec le rôti de seitan. Je sais pas si tu le proposes encore sur ton site ou s'il est plus dispo du coup.
Si, il est dispo. C'est le menu de Noël vegan de l'année d'avant, quoi. Et celui-ci est gratuit.
Ok, puis voilà l'option un petit peu, on va dire, moins sympa, mais si vraiment on est un repas où on n'a pas trop de maîtrise du coup sur le plat principal, ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir des accompagnements végétaux à côté, et on peut dans ces cas-là proposer justement de se charger d'une partie des accompagnements.
Et c'est toujours facile de venir avec un gratin par exemple, ou ce genre de choses, ou de proposer voilà, des sauces aux champignons, des marrons, même des haricots verts, enfin des choses qui sont simples. À mettre en place et qui sont accessibles à tout le monde, quoi.
Super. Et puis dernière partie du repas, le dessert, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors, je vais faire une petite confession. Je suis pas hyper forte en sucré. c'est moins.
C'est Juliette qui s'est chargée de cette partie plutôt.
C'est Juliette qui s'en est chargée, évidemment. Mais alors, on peut faire plein de choses. On peut faire des sablés. C'est très convivial en plus à faire si vous voulez faire ça en famille. Il suffit de remplacer le beurre avec de la margarine, par exemple. On peut faire des dattes fourrées avec de la pâte d'amande. On peut faire plein de petites mini-hardises comme ça. On peut faire des truffes au chocolat, etc. Après, si vous êtes attaché à la bûche, je sais que Picard, cette année, en propose des véganes.
Ah, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'on n'a pas non plus parfois le temps de faire maison l'intégralité du repas de Noël.
Et avec, du coup, avec Juliette, cette année, on a réalisé un cheesecake vegan au spéculoos et au citron. Et moi, qui ne suis pas très sucrée, je dois avouer que je me suis vraiment régalée avec ce dessert. Il y a deux ingrédients secrets à l'intérieur pour qu'il tienne bien et qu'il ait une texture hyper onctueuse tout en étant assez solide. Et franchement, c'était une très belle réussite.
Super. Sur le dessert, j'allais dire, effectivement, ça, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on trouve quand même aujourd'hui beaucoup de recettes sur Internet de desserts classiques. Enfin, tous les gâteaux, moi, je sais que je cuisine souvent pour faire des gâteaux, des petits biscuits et tout ça en version végétale. Et en fait, c'est souvent surtout le beurre qui peut poser problème éventuellement et à remplacer effectivement soit par de la margarine, soit par de l'huile, soit parfois par des ingrédients qui peuvent remplacer le beurre dans une recette. Je pense aussi aux œufs, pardon. Mais pareil, qui sont plutôt assez faciles à remplacer. Donc parfois, juste en cherchant un petit peu sur Internet comment remplacer le beurre, comment remplacer les œufs, après, on peut rester sur une recette à peu près
classique. On peut décliner beaucoup de desserts classiques, effectivement. Après, voilà, j'avoue que je ne me suis jamais chauffée à faire une bûche. mais maintenant, on peut en acheter, et donc ça, c'est cool aussi.
Super, bah écoute, ça donne plein de bonnes idées pour le repas de Noël, ça donne envie. Et puis, un élément important, c'est le vin aussi dans les repas de Noël. Et on le sait pas forcément, mais le vin n'est pas forcément vegan. Alors, si on a juste envie de végétaliser son alimentation, c'est peut-être pas par là qu'on va commencer. Mais pour les personnes qui sont vraiment strictement vegan, bah, il faut potentiellement faire attention parce que tous les vins ne sont pas compatibles avec une alimentation vegan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai mis un petit moment avant de découvrir cette info que j'ai trouvée assez surprenante parce que pour moi, c'était vraiment du raisin en bouteille et donc je comprenais pas à quel moment c'était pas vegan. Et en fait, il se trouve qu'il y a un processus dans la fabrication du vin qu'on appelle le collage ou la clarification. Et en fait, on va venir utiliser soit du blanc d'œuf, soit de la graisse de poisson ou de la caséine issue du lait. Et ça va permettre de filtrer une partie des impuretés du vin. Maintenant, de nos jours, on arrive à le faire aussi avec, par exemple, des pots de petits pois. Donc, il y a des options véganes qui existent. Il y a certaines bouteilles où le label est clairement écrit et donc on se pose pas trop la question. On peut facilement savoir s'il est végane. Par contre, je sais pas si c'est vraiment sur toutes les bouteilles. Donc, le mieux, c'est peut-être de demander directement à un caviste.
Tout à fait, je crois que c'est pas encore quelque chose qui est totalement transparent sur les bouteilles de vin, donc faut se renseigner auprès de son caviste. Justement, niveau boisson, est-ce que tu as quelques idées de boissons qui changent pour Noël, qui seraient sympas à tester cette année ?
Si on continue sur la lignée du vin, il y a tout ce qui va être champagne et prosecco. Là, j'ai découvert qu'il y avait des prosecco aussi, où il y avait le label vegan dessus. Donc ça peut être... un moyen sympa d'intégrer des petites bulles, etc. Et puis sinon, en réalité, tous les softs fonctionnent aussi très bien. Si vous n'êtes pas trop team alcool, ça marche aussi très bien.
Ok. La nouvelle année, c'est souvent l'occasion de prendre ce qu'on appelle les bonnes résolutions. C'est un peu old school, mais bon, en tout cas, de se dire je repars d'un bon pied. Voilà, c'est une nouvelle étape en général. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de végétaliser son alimentation à partir de 2023 ? Par où est-ce qu'on peut commencer ?
Alors, je pense que une des bonnes choses à faire, c'est de se rendre compte de ses habitudes alimentaires et de déterminer où est-ce qu'on veut agir et de le faire par étapes. L'idée, c'est pas de se dégoûter en se sentant frustré et en ayant envie de faire marche arrière, c'est plutôt de le faire de manière progressive et de le faire de façon... fun et que ce soit une belle découverte. Moi, je trouve que d'arrêter toute la viande et les produits animaux, etc. Ça a été une des meilleures décisions de ma vie et j'ai découvert un peu tout un nouveau monde alimentaire et c'était vraiment super. Et je pense que si on arrête trop d'un coup, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à le maintenir. Donc j'aurais tendance à dire, bah, par exemple, je mange de la viande rouge encore, bah, je pourrais commencer par arrêter la viande rouge et puis exclure petit à petit des aliments qu'on se sent capable d'exclure. Je pense que c'est aussi hyper important de se renseigner un petit peu sur la nutrition, de se rendre compte qu'effectivement, il y a tous les nutriments nécessaires dans l'alimentation végétale, à part la B12. On pourra en reparler si tu veux. Par exemple, on peut trouver du calcium dans les légumes à feuilles vertes ou dans les oléagineux, qu'on peut trouver du fer dans les légumineuses, etc., pour pouvoir bien équilibrer ses assiettes et donc à la fois se faire plaisir et avoir des bons apports au niveau santé. Pour une notion de durabilité, c'est primordial de ne pas mettre en péril sa santé en mangeant n'importe quoi. Je pense que c'est cool aussi de suivre des comptes Instagram, tout simplement, de personnes qui font des recettes qui sont cool et qui donnent envie. Et comme ça, on a une alimentation qui est diversifiée, qui est variée, avec laquelle on se fait plaisir et on découvre des nouvelles choses. Et puis, si c'est pour une bonne résolution, effectivement, et qu'on veut le faire en janvier, il y a un programme qui s'appelle le Veganuary, qui est international et qui invite toutes les personnes qui souhaitent être véganes à essayer de le faire pendant un mois. Ça fonctionne avec une newsletter. Et puis de mon côté, moi j'ai un peu repris ce concept et je lance aussi un accompagnement avec tout un groupe des personnes qui suivent mon compte et qui veulent qu'on le fasse ensemble. Donc c'est aussi possible de rejoindre ce que j'ai appelé du coup le Vegani Challenge, qui s'inspire largement du Veganuary, mais voilà, avec peut-être un accompagnement nutritionnel plus poussé, avec des conseils et des sites web et des sources solides, etc., pour aider dans les recherches et pour avoir les bonnes informations, etc. Donc voilà, je pense que l'ensemble de ces conseils combinés qui peuvent faire en sorte d'avoir une transition qui se passe bien, en douceur, qui est agréable et qui a un changement positif.
Sur l'équilibre nutritionnel, alors pareil, il y a pas mal d'infos dans notre numéro 12, mais peut-être comme tu l'as mentionné, si tu peux juste dire un mot sur la vitamine B12 pour pas laisser nos auditeurs en plein suspens.
Exactement. La vitamine B12, c'est le seul élément qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation végétale. C'est une vitamine du coup qu'on va être obligé de consommer en complément alimentaire pour les personnes qui sont véganes. C'est aussi recommandé pour les personnes qui sont végétariennes, même si c'est pas obligatoire. En fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on réduit significativement, viande et poisson, c'est important, c'est intéressant de commencer à considérer, à intégrer la B12, parce qu'on en trouve un peu dans les produits laitiers, dans les œufs, mais c'est pas des niveaux optimaux, c'est pas des niveaux très satisfaisants. Donc c'est la seule vitamine qu'on ne trouve pas dans le règne végétal et qu'il faut apporter par une complémentation.
Super. Écoute, de toute façon, après, sur tout ce qui est équilibre nutritionnel, justement, pour ceux qui veulent se lancer en 2023, effectivement, il y a des programmes d'accompagnement, dont le tien, qui sont bien faits pour expliquer tout ça. Ça vaut toujours le coup de se renseigner là-dessus, même si ça devrait être le cas pour tout le monde, en fait, végétarien ou pas végétarien. On devrait, je pense, souvent se renseigner un petit peu plus sur les apports nutritionnels dont on a besoin pour être en bonne santé.
Exactement. Et les carences ne sont pas dédiées que aux véganes. Il y a des omnivores qui peuvent aussi tout à fait avoir des carences. Et en fait, le fun fact, c'est que bien souvent, les végétariens et véganes sont mieux formés en nutrition puisqu'ils sont un peu obligés de se renseigner. Voilà, donc ça veut pas, c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est exempte de carences à vie, quoi.
Tout à fait. Ok, écoute, pour terminer, nos deux petites questions rituelles. Alors pour commencer, est-ce que tu as une recommandation de livre, de podcast ou de documentaire à nous partager ?
Eh ben écoute, je viens de terminer le livre qui s'appelle Steaxisme. Je sais pas si tu connais.
La couverture est absolument géniale.
Nora Boisouni. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre parce que, en fait, même s'il met en avant des choses un peu évidentes, c'est une évidence qui était un peu enfouie. Et en fait, ça met vraiment en lumière que les publicitaires nous ont matraqué, que aux femmes, on donnait de la volaille, des yaourts nature, des eaux aromatisées et des régimes minceurs pendant que les hommes mangeaient de la viande rouge, de la junk food et du whisky. Et ça parle un peu de tout ça et de, du coup, le rôle que ça a eu et de l'alimentation genrée, en fait. Et c'est super intéressant, je trouve.
Ça a l'air super intéressant. Je vais le lire, je pense. Et pour finir, ton petit conseil pour voir la vie en vert.
Végétaliser son alimentation. Je trouve que déjà, c'est un super, point de départ. Et en plus, que ce soit le GIEC ou le cabinet d'études Carbone 4, les deux prônent que c'est l'action individuelle la plus efficace pour réduire son empreinte carbone. Et donc, ça peut faire partie également des bonnes résolutions de se dire que pour réduire son impact sur l'environnement, on peut essayer de végétaliser petit à petit son alimentation. Je trouve que c'est un choix individuel qui a beaucoup de sens et d'impact.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que souvent, les actions individuelles, on les minimise un peu parce que c'est des petits gestes et on ne sait pas quel est le vrai impact au global. Mais je trouve que celui-ci en particulier, puis les autres aussi quelque part, mais est quand même assez significatif parce qu'en réalité, ça pèse assez lourd dans toutes les problématiques de gaz à effet de serre, de pollution des sols, d'eau, d'occupation des terres agricoles, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Avec ce qu'on met dans notre assiette, on peut quand même modifier pas mal de choses sur toute la chaîne qui se passe en amont.
Exactement.
Écoute, merci beaucoup, Mélanie. Bonne fête, du coup. Bon repas de Noël.
Merci à toi et puis bonne fête aussi à tous ceux qui nous ont écoutés.
Super. À bientôt. Salut.
À bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Et revoilà le mémo. On reprend les bonnes vieilles habitudes en vous proposant une petite synthèse des points clés de l'épisode, avec notamment les astuces et idées recettes de Mélanie pour végétaliser votre repas de Noël. Alors niveau astuces, pour éviter les tensions à Noël autour des régimes alimentaires de chacun, tout d'abord, Mélanie conseille de ne pas aborder le sujet lors du repas lui-même. Ce n'est pas le moment de chercher à convaincre ou de lancer des grands débats. Ça évite de se fâcher avec tout le monde. Deuxièmement, si on veut pouvoir profiter du repas de Noël, on peut se proposer de se charger d'une partie du repas. Ce qui est assez simple à faire en version végétale, c'est les entrées et les desserts, par exemple. Donc, si on amène des versions végétales, ça peut tout à fait passer même inaperçu et tout le monde peut se régaler. Et si vous êtes végétarien, vegan, ou si tout simplement vous voulez réduire un petit peu l'aspect carné de votre repas de Noël, ça peut très bien fonctionner. Au niveau du plat principal, alors soit c'est vous qui le cuisinez, dans ce cas il y a des idées recettes qu'on va reprendre jusqu'après, soit l'idée c'est d'essayer de miser sur les accompagnements, là aussi vous pouvez proposer de vous en charger, il y a plein d'accompagnements très chouettes avec des gratins végétaux, tous les accompagnements à base de pommes de terre, de champignons, même de haricots verts ou de choses toutes simples avec une petite sauce pour relever tout ça. La troisième astuce, c'était d'amener un petit baluchon, on va dire, de produits d'alimentation végétale. Ça peut être amener du faux gras pour au moment où les autres convives profitent de foie gras, on sort sa petite terrine de foie gras qui fait bien l'affaire. Ça peut être des petites friandises véganes pour le dessert, par exemple. Voilà, on peut se ramener aussi quelques petites choses qu'on amène pour soi et les gens peuvent être aussi curieux d'y goûter et finalement on peut peut-être faire des adeptes. En termes d'idées recettes, pour reprendre les idées proposées par Mélanie, sur les amuse-bouches, il y a la plupart des produits apéro classiques qui peuvent fonctionner ou alors ce qui est très sympa, c'est tous les réalisations en pâte feuilletée. La plupart des pâtes feuilletées sont faites avec de l'huile et pas de beurre, donc elles sont végétales. Il y a plein de tutos sur internet pour faire des sapins en pâte feuilletée, toutes sortes de petites formes. Ça a aussi l'avantage d'être facile à faire et de pouvoir être fait par les enfants. Au niveau des entrées, ce qui est facile, qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est soupe veloutée. On peut rajouter des petits toppings sympas pour que ça soit joli, ainsi que des épices pour amener le côté Noël. Pour le plat, si on est avec un public qui s'y prête, si on est soi-même un petit peu averti en termes d'alimentation végétale, on peut se lancer dans un rôti de seitan parce que c'est très bon. Pour une version peut-être un peu plus simple, Mélanie conseille de s'inspirer des Anglais avec le Wellington de légumes. On le trouve facilement effectivement en version végétarienne ou végane, même sur internet il y a des recettes, et c'est très bon. Pour le dessert, Mélanie précisait qu'il y avait des bûches glacées de chez Picard qui existaient maintenant en version végane. C'est assez pratique si on veut acheter quelque chose de tout prêt. Autrement, les recettes traditionnelles, finalement, de gâteaux et de petits biscuits sont assez faciles à végétaliser en remplaçant le beurre par de la margarine ou de l'huile. Et en se passant des œufs, on peut souvent aussi remplacer les œufs par de la compote, généralement dans les versions végétales. Attention au vin, qui n'est pas toujours vegan. Si vous avez des gens qui sont strictement vegan à table ou si vous l'êtes vous-même, il faudra voir si le label vegan est indiqué sur la bouteille ou bien se renseigner auprès du caviste parce que c'est pas toujours évident à repérer. Voilà, on espère que vous avez l'essentiel des infos. On vous souhaite un bon appétit et un joyeux Noël. Merci, salut.
La Voix Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !